Surpris par la nuit, Joël Gayot, Anne Fleury. Tchekhov ou la tentation du théâtre, avec le metteur en scène Jacques Lassalle et les comédiens Clotilde Bézère, Muriel Mayette et Denis Podalydès.
Dieu sait si elle a fait l'objet d'outrage, Lassalle Richelieu. Dieu sait si les metteurs en scène ont rageusement voulu la casser, l'offenser. Ça marche pas très bien. Il y a un équilibre très très savant, très subtil, mais pas très théorisable, pas spontanément théorisable, entre le niveau d'outrage qu'il faut lui infliger et le niveau de respect et de prise en compte. Voilà, c'est très passionnant. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça, j'ai dû faire, je crois, au total 9 mises en scène, Richelieu. Donc, je connais bien le lieu. C'est cette intimité. Au théâtre, comme dans la vie, les choses commencent à devenir bien quand les réponses viennent avant les questions. Voilà. Quand on sait d'abord, quand instinctivement on trouve, et puis après, on s'explique pourquoi on l'a trouvé, enfin, trouvé d'abord. Et on ne trouve d'abord que là où on est intime.
En écrivant Plateau Neuf, Anton Tchekhov découvre le théâtre. L'auteur n'a pas 20 ans, mais l'ensemble de son œuvre à venir est là, dans cette pièce de jeunesse qui restera des années durant enfouie au fond d'un tiroir. À la Comédie Française, Jacques Lassalle a mis en scène Plateau Neuf, dans une nouvelle traduction de Serge Resvani, restituant du coup au texte l'intégralité de son titre, Plateau Neuf, ou le fléau de l'absence des pères. Jacques Lassalle, qui pour la première fois en France met en scène Tchekhov, est de retour dans une institution qu'il connaît bien pour en avoir été, en son temps, l'administrateur. Avec lui, nous entrons au cœur du processus de création. La première n'a pas eu lieu, mais elle approche. Nous sommes au mois d'octobre. Des sous-sols de la Comédie Française, la salle Escante, au grand plateau de la salle Richelieu, le spectacle se fabrique, jour après jour, heure après heure. Jacques Lassalle est le maître de ce processus. Séance de coupe, répétition, filage, les scènes résonnent, différentes, sculptées, mot à mot, par les acteurs. Sur les traces de Plateau Neuf, dans les pas d'un Tchekhov s'essayant au théâtre, tentant le théâtre, nous croisons la route de quelques-uns des protagonistes.
Je crois qu'actuellement, on dénombre, ce qui n'est pas énorme, ça va être la 12e ou 13e mise à la scène de cette pièce.
Jacques Lassalle.
Qui a été découverte assez tardivement, en tout cas bien après la mort de Tchekhov, abandonné dans un tiroir, et qui n'a été bien sûr pas représenté de son vivant. C'est Villard, curieusement, qui l'avait révélé à Chaillot à la fin des années 50, dans une version très très allégée, très très de Paul Quentin. Mais depuis, et surtout en 3 ou 4 ans, il y a eu une espèce d'engouement extraordinaire pour la pièce. Et cet engouement fait question, d'ailleurs.
Engouement français comme engouement étranger.
Engouement français, engouement étranger, de toutes les manières. J'ai dû voir, au cours de ces deux dernières années, j'ai dû voir 5 représentations de Plateau Neuf à l'étranger.
Ça suffit. On part. Ça suffit. On part loin de cette Russie. Moi, j'irai plus vite, vous voyez. C'est rouler dans le ruisseau, comme lui.
Salle Escande, 21 octobre 2003.
Ça suffit ici. Ça suffit ici.
Et moi, je suggérerais ce cher papa, il m'a donné la vie.
Ce sera mon guide.
Et moi,
ce cher papa, quelle merveille. Il m'a donné la vie, et moi.
Moi, je dirais pas quelle merveille. Ce cher papa, il m'a donné la vie, et moi, je vais lui apprendre à la faire. La vie.
Oui. Je vais lui apprendre à la perdre, mais... Ouais. Moi, j'avais noté, il m'a donné la vie, et moi, je vais lui apprendre à la perdre. Mais...
À la perdre.
Oui.
À la perdre, oui.
C'est bien, ça.
Oui.
Mais c'est pas
parce que je vais lui apprendre à la faire,
Faire la vie, quoi. C'est des jeux de mots de.
Je peux lui apprendre à la perdre, c'est-à-dire que. Alors là, il peut me faire confiance.
On va y aller.
Ouais. Mais en
là,
même temps,
là,
si
ça sera vite fait, là.
En même temps, si je me permets, perdre dans sa vie, c'est pas une expression.
Oui, c'est bien. Mais oui, mais je vais. Il a perdu la vie. Il a perdu sa vie, ça veut dire. Perdre sa vie à la gagner. L'expression, je perds ma vie à la gagner. Mais perdre sa vie.
Non, mais si je.
Il m'a donné la vie, et moi, je vais lui apprendre à la perdre.
J'ai perdu ma vie dans la vie. J'ai perdu ma vie.
Mais c'est joli, hein, j'aime bien ça.
Alors maintenant, on va s'occuper des. On va la prendre dans l'ordre. Hein. Donc on a été arrivé à SN7, je crois.
J'essaie de tout préserver, la vérité. C'est-à-dire que de cette extraordinaire efflorescence de thèmes, de situations, de personnages, j'ai essayé de tout préserver. Si j'avais tout préservé, écriture comprise, ça ferait une représentation de 7 à 8 heures. Aussi long que le soulier de satin, par exemple. Et pour bien des raisons, il n'en était pas question. Pas seulement pour des raisons techniques, pour des raisons d'exploitation, de protocole entre le public de la Comédie française et la maison. Mais parce que ça serait pas très... Comment dire ?
Ça ne rendrait pas service à Tchekhov, Jacques Lassalle ?
Oui, si je vais au bout de ma pensée, c'est de ça qu'il s'agit. Au fond. L'œuvre est considérable. Et chaque jour, je veux dire, dans sa nouveauté radicale, dans ses ouvertures, dans ses potentialités. Mais c'est l'œuvre d'un très jeune homme qui ne s'est pas encore défait que d'un certain nombre d'influences. Et pas seulement celle qui sera permanente chez lui de Shakespeare, enfin, et plus encore d'Hamlet, plus précisément d'Hamlet, mais de beaucoup d'autres influences. C'est l'œuvre d'un jeune homme. Il écrit la pièce entre sa 18e et 20e année. L'œuvre du novelliste n'est pas encore commencée non plus. Même si Platonov pourrait se concevoir comme le collage d'une vingtaine de nouvelles, enfin... Il y a ça aussi. Mais c'est l'œuvre d'un très jeune homme qui fait ses classes sans avoir en tête une représentation possible de sa pièce et qui d'ailleurs, quand elle est terminée, si tant est... Oui, elle l'est. La met dans un tiroir et n'y touchera plus jamais. Donc, incontestablement, entre le poète se dotera des moyens du visionnaire sur une quinzaine d'années.
C'est le texte, c'est la version intégrale, ça ?
Oui.
Et après,
Après, j'ai une hésitation, parce que est-ce qu'il faut rendre compte, soit, je me disais, couper complètement, bon, allez, il faut s'en aller, il faut partir, faut s'en aller, demander l'invitation, regardez que faut s'en aller, demander l'invitation, pas besoin d'écrire des œuvres de respection, c'est pas la peine. Mais c'était cette idée, est-ce qu'il fallait garder cette idée qui amenait sa bizarre instituteur, hein, quand même.
J'aime bien, mais dans sa brutalité, dans son impréparation, presque. Pas trop loin.
Oui.
Devenez plus douce une pomme de fruits. Tout ça est stupide. Bizarre, l'instituteur. Il ne prend pas de pot de vin, il ne vole pas, il ne bat même pas sa femme.
C'est cette façon de se... Oui.
Mais attention, c'est une canaille ridicule. J'aime pas l'ennui.
Non, c'est vrai. On a peut-être pas besoin de se...
Elle y a cru, elle est devenue plus douce une pâte de fruits. Comme tout ça, est stupide.
Ce qui est très curieux, c'est que il y a deux plaisirs, comme... Il y a un plaisir... qui, je crois, apparaîtra très évidemment à la lecture de la traduction de Resvani, c'est le plaisir du mouvement, de cette prolixité de l'écriture. Au théâtre, cette prolixité devient encombrante. D'abord, elle ne fait pas l'économie d'un certain nombre de redites, de réitérations. C'est très curieux, techniquement, presque chaque pensée, chaque sentiment, chaque sensation est exprimée deux fois. Enfin, c'est exprimé en général d'une façon brève est quasiment de l'ordre, dans une perception physique des choses, et c'est répété dans une seconde phrase qui est d'un ordre plus de la sentence ou du jugement, enfin. Bref, Tchekhov n'est pas revenu sur son texte.
Alors on fait la scène suivante.
Comment vous commenciez le monologue du coup? Vraiment?
Quand je parlais avec Sophia.
C'était. Commencer quand je parlais avec Sophia. Va te coucher, ivre.
On peut garder le sujet ivre, vraiment. Quand je parlais avec Sophia, elle était à genoux.
Quand je parlais.
Vas-y. Oui, moi je dirais que suis-je ivre tout court. Suis-je ivre quand je parlais avec Sophia.
Pour mieux servir la totalité de l'œuvre. Sans aucune espèce d'état d'âme, sans aucune espèce de culpabilité, nous avons procédé, et nous procédons chaque jour encore, à des coupes importantes.
À vous, Catherine.
Vous en
avez. Je redoute parce qu'on va arriver.
Non, pas du tout, Jacques. Je vous jure que
Catherine.
Je vous jure que non, c'est noir. Non, j'ai rien rajouté.
Très bien. Ah oui, oui.
Alors.
On y va comme ça? Ça va le. Je crois que c'est.
Oui, c'est très bien.
Va-t'en, ivrogne.
Finalement, il y aura trois éditions, enfin trois états du manuscrit originel de Tchekhov, dans la traduction française de Serge Rezvani. Il y a un état qui est son seul fait à lui. Le texte qu'il m'a remis, c'était déjà à l'automne 2002. Il y a un second état, celui que nous avons établi avec la jeune collaboratrice qu'il m'a proposée, Diane Calma, me proposait un premier état. Au début, c'était très timide, les coupes. Peu à peu, les coupes étaient beaucoup plus franches. Mais elles ne portaient jamais, on ne s'est jamais posé la question qu'on pose en général au théâtre. Si on fait une coupe, il faut qu'elle soit franche. C'est un renoncement douloureux, cruel. Là, non, jamais. On garde tout. Mais. Et on a affiné notre dialogue et notre travail. Et donc, on a fini par se réunir à partir de cette version scénique. On a fait une séance de travail commune entre Serge Rezvani, Diane Calma et moi, et c'est ce que nous avons donné aux acteurs. Mais j'avais bien précisé, là encore en plein accord avec Serge Rezvani et Diane Calma, que, en toute probité, il fallait aussi donner aux acteurs la version intégrale. Je sais depuis très longtemps que la pluralité, l'infini possible d'un texte n'est pas dans sa transformation, il est au contraire dans dans son invariance, voilà. Un texte s'ouvre infiniment plus quand il est fixé une fois pour toutes. Et là, il se déplie. Donc je connaissais les dangers de cette aventure. Un acteur court à la version intégrale, en tout cas à la version intégrale qui concerne son parcours. Et je savais que j'aurais affaire, et j'ai eu affaire, et souvent de façon tout à fait pertinente, à quelques questions. Vous avez supprimé ça, je crois que ce serait pas mal. Et quelquefois, c'était très pertinent. Donc, j'ai eu aussi à compter avec le rappel à l'ordre de certains acteurs qui, ayant lu la version intégrale, me demandaient de revenir un tout petit peu sur la version scénique. Et tout autant à ma propre conviction, jour après jour, qu'il fallait couper encore.
Vous continuez sur les coupures?
Oui. On va avancer le plus possible.
On n'ira pas oublier une proposition de coupure dans.
Oui.
Vous pouvez donner la
phrase 3.
Oui.
Alors.
C'est entre crochets.
En même temps, c'est indispensable. Bon, on continue. Donc on est à l'acte 3 maintenant, déjà.
D'accord. Et il est
les propositions. Les propositions.
À partir de lundi, on travaillera jusqu'à 10h avec ceux qui sont disponibles.
Bonne soirée.
Au revoir, Denis. Au revoir, Denis.
C'est le dernier Forêt qui est parti.
Denis Podalydès
Comment ?
Vous interprétez Platoneuf dans cette mise en scène de Jacques Lassalle qui va se jouer donc à la Comédie Française. On se retrouve ici dans ce qui s'appelle le Salon Bleu à la Comédie Française, c'est-à-dire que c'est une sorte de sas de passage entre la salle Richelieu où vous répétez la journée et la salle Escande où vous vous retrouvez le soir. C'est un sas de décompression, le Salon Bleu de Nipodalides.
C'est souvent une salle d'attente où on attend de passer à Escande quand on ne veut pas déranger le travail ou qu'on veut dormir. Il y a des banquettes là où souvent il y a des acteurs qui dorment, ça m'est arrivé aussi. Et ou alors on se dit le texte. Moi je viens souvent faire des italiennes à deux ou tout seul ici dans Salon Bleu. C'est une salle qui est, elle est très bien parce que en fait, comme elle ne concerne que Escande, on y est assez tranquille.
Quelle est la différence de nature du travail entre ce que vous faites à Richelieu la journée et ce que vous faites le soir à Escande ?
C'est toute la question est là. Un des problèmes qui est lié à tous les spectacles, et dans celui-ci c'est particulièrement aigu, parce qu'à Escande, on fait un travail, on n'a pas la nécessité de la projection, de la profération. Problème qui se pose inévitablement à Richelieu. Donc ici, on travaille quasiment cinématographiquement, ce qui n'est pas pour déplaire à Jacques Lassalle, dans le ciné, qui est hanté par le cinéma. Et ce qui fait qu'on peut travailler sur des petites unités de jeu très, 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 très fines, qui, reprises telles quelles, évidemment, s'écroulent ipso facto à Richelieu et tout est à refaire. Donc, mais c'est bien de passer par ce travail-là. Toute la difficulté, c'est de transposer ensuite à Richelieu. Parce qu'ici, on trouve par exemple des variations vocales très infimes, très intéressantes, qui rendent la scène parfois très émouvante, très passionnante. Et on fait la même chose. Soit on n'entend rien, soit on se met à gueuler. Donc voilà, monter cet ascenseur ou cet escalier, ça veut dire tout retransposer.
Et alors, quelle trace est-ce que ça laisse en vous, le travail que vous faites à Escande chaque soir ? Parce que vous travaillez parfois jusqu'à 21h,
ouais.
Mais ça vous arrive aussi de travailler jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Le lendemain, quand vous vous retrouvez à 13h sur le grand plateau de la salle Richelieu, de quelle manière ça nourrit ce que vous allez
faire ?
C'est
vrai, quelquefois, c'est un vrai petit deuil. Il faut... c'est mort, ce qu'on a fait, mais on a identifié la cible. On sait où on veut aller. Généralement, le travail spatial, dans l'espace, on peut le conserver. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit... En fait, généralement, on refait tout, et y compris dans l'espace aussi, ça change.
Est-ce qu'il y a une reproduction à Escande, en plus petit, de ce qu'il y a à Richelieu,
voilà,
en plus grand, du même décor, de la même scénographie ?
Voilà, il y a un décor de substitution, mais qui n'est pas aux mêmes mesures. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans le vrai décor, c'est plus grand. La salle est évidemment plus grande, le décor est plus grand, donc les distances sont pas les mêmes. Donc on s'est réglé pour des répliques sur des distances qui sont fausses. Et puis là, le matériau aussi est différent, c'est-à-dire que le sol, par exemple, d'Escande est un sol vrai, est un sol qui résonne vrai, comme dans la vie, disons bêtement. Et à Richelieu, c'est un sol de théâtre. Alors, et pour le metteur en scène aussi, c'est très cruel, c'est que ce qu'il avait vu, ce qu'il avait touché du doigt, il le voit totalement faux. Et donc, on refait, la voix se réajuste autrement. Mais on garde quand même, on doit garder ce souvenir qu'on a eu à Escande. Et quelquefois, souvent par hasard, curieusement, ou à force, c'est là où le metteur en scène doit avoir le courage et de remettre en question son propre travail et en même temps de s'appuyer dessus. Et j'ai vu hier notamment... Ça met beaucoup de temps, mais retrouver les sensations. Et par moments, on se retrouve très bien.
J'ai beaucoup roulé ma bosse. Et mes plus grandes joies de théâtre, dans le domaine, justement, du risque pris, de l'exploration, du surgissement des vertiges, c'est dans la salle Escande. C'est là que j'ai connu les moments de plus grands bouleversements artistiques et parce que c'est la même chose de vie aussi. Alors après, il faut transporter ça là-haut, c'est-à-dire sur la salle Richelieu, dans les conditions d'acoustique, de vision et quelquefois d'environnement qui ne sont plus du tout les mêmes. Là-haut, la salle est sous surveillance. Ici, non. Enfin, je vous introduis de proche en proche à une approche beaucoup plus large que celle de Platonov. Je vous introduis à ce qu'il y a de spécifique et de singulier à la comédie française et à ce qui, du même coup, constitue ma relation étrange à cette maison, qui a représenté pour moi, jeune élève du conservatoire dans les années 60 et jeune élève stagiaire de cette maison pour vivre, qui a représenté pour moi l'absolu repoussoir. Enfin, voilà. Faire du théâtre, si tant est qu'il fallait encore en faire, après ce trauma-là, c'était se reconstruire contre. Je vis ici, de façon extraordinairement intense, ce que je... D'une certaine façon, je déteste le plus au monde et ce qui me constitue absolument.
Es-tu d'aussi dangereux que ça, Don Juan ?
Les gens me connaissent ne finissent bien que les romans où je ne figure pas.
Si ça te déplaît, je m'en vais. Le veux-tu, je m'en vais. Tout sera comme avant, ça te va ?
Plateau de la salle Richelieu, 22 octobre 2003.
Mais qu'attends-tu pour prendre ? Mais arrache donc l'empoigne ! Que veux-tu de plus ? Presse-moi à me briser. Réduis-moi à rien. Alors n'aie pas peur d'être un homme.
C'est parfait. Je crois que cette partie-là, ça serait mieux maintenant dans la...
Là-bas.
Si tu veux, je m'en vais. Et puis, elle se ravise, vous voyez, Muriel. Et voilà. Et vous la rejoignez.
D'accord.
Et je pense qu'elle n'oublie pas sa badine. Je sais pas.
Non.
C'est magnifique, tout ça. Mais je pense que on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans une pareille proximité. La deuxième partie est...
Si je viens, Jacques, si je fais ça, c'est trop.
Oui. Non, mais c'est... Enfin, je n'ai pas éprouvé...
C'est pas nécessaire.
Non.
Pour faire... Non, mais c'est pour... Dans l'idée de, ludique de jouer à ça. C'est trop, c'est pas nécessaire.
Peut-être si.
C'est pas mal. Non, mais c'est parce que j'avais...
La générale est... La générale...
Oh, j'ai froid. Mais pour que ce soit idiot, quoi.
On peut... Oui, oui. On peut le faire.
Mais c'est pas nécessaire.
Comme une espèce de oui.
De provocation.
De dérision, enfin voilà. Il faudrait quand même demander peut-être à Renate, c'est difficile de boutonner un peu plus bas pour qu'après vous puissiez. Non, mais ça va.
Non, mais j'aurais une grande chemise jusqu'en bas. Hein. Je serais pas du tout déshabillée.
Elle aurait une chemise
J'ai une grande chemise c'est comme ça, une chemise ça. De voilà. Nuit en fait.
Oui. Mais vous avez tous les droits dans le domaine du je m'amuse.
C'est ça que je voudrais faire.
Voilà,
je me demande si de faire. Oh, j'ai froid.
Mais à un moment donné, à mon avis, elle le met dans son manteau, si je peux dire.
Oui, mais à la fin.
Elle ouvre le manteau, elle l'enferme dedans. Mm-hmm. Elle le prend dans le
c'est
manteau.
Bien qu'il y a la partie là.
Mais à la fin. Déconnant. À la fin et à la cour.
Donc je peux ici, Jacques,
oui.
Faire un truc plus comique, c'est-à-dire faire ça.
Oui.
Et puis d'un coup lui faire ça.
Oui, oui. Oui, oui, absolument.
C'est-à-dire faire un truc qui n'est pas oui, sensuel, oui. Qui soit pour rigoler.
Oui, oui. Absolument.
Hein?
Oui, oui.
Et puis glisser.
Oui, oui.
Glisser. Hein? Allez. Es-tu donc si dangereux que ça, Don Juan?
Peut-être après la partie. Après le jeu carrément. Comment dire. Dérision de. Peut-être là, que ce soit quand même un peu plus sourd, un peu plus.
Vrai.
Un peu plus vrai, un peu plus pris dans le désir, voilà.
Ouais.
Parce que, en tout temps, la dérision n'est pas loin, mais pas à ce point, vous voyez.
Mais flirter davantage avec le vrai.
Comment ?
Flirter davantage avec le
vrai.
Ouais.
Je crois qu'il y a un retournement naturel, si je m'en vais, si tu veux, etc. Et puis, il s'approche, je ne sais pas, et là,
à mon avis,
et là vous basculez... Si ça te déplaît, je m'en vais.
Oui, on va faire autrement.
Crois-moi, ne finisse bien que les romans où je ne figure pas. Voilà.
D'accord.
Si ça te déplaît, je m'en vais. Le veux-tu, je m'en vais. Tout sera comme avant. Ça te va?
Ça te déplaît, je m'en vais. Le veux-tu, je m'en vais. Tout sera comme avant.
Dans cette entreprise que nous menons, qui serait de déceler les secrets de fabrication d'un spectacle de Nipodalides, finalement, on arrive ici dans un lieu qu'on pourrait presque qualifier de laboratoire, et alors tout s'y prête, on est sous les combles de la Comédie-Française, ça se passe la nuit. Vous arrivez ici, après avoir travaillé à Richelieu, ce qui veut dire que vous arrivez aussi dans un certain état, j'imagine, et de fatigue, et de confrontation au texte. Vous n'arrivez pas vierge quand vous descendez à Escande le soir à 18h.
Moi, j'arrive. Si j'ai répété avant, j'arrive plutôt frais. Et même, j'ai remarqué l'autre jour, j'avais joué avant. On répétait le samedi, donc j'avais joué La Forêt en matinée. Et j'arrive après La Forêt assez fatigué. Mais c'est la bonne, une saine fatigue qui permet de lâcher dans le travail, qui permet d'être très détendu. Et moi, j'aime assez. Enfin, c'est propre à cette maison-là, le passage comme ça d'un auteur, d'une salle, d'un metteur en scène à un autre. Surtout quand on passe de Fomenko à la salle où c'est vraiment pas le même clavier. Et au contraire, ça permet une détente et une surprise, enfin, d'être dans le non-prévisible, ce qui convient tout à fait à Jacques Lassalle. Et ce qu'on aime faire, enfin, d'arriver sans... Souvent d'ailleurs, c'est drôle dans ce travail, moi je fais ça en apprenant le texte, on se construit la scène mentalement, enfin, on s'en fait un petit scénario, une petite mise en scène. Et souvent, on fait le premier jet, et avec Jacques, il laisse faire le premier jet. Aussi médiocre, épouvantable soit-il, il n'intervient pas. Alors souvent, les acteurs sont là, ravagés en scène, se sentant éperdument mauvais. Et on continue à jouer la scène, il y a des trous de texte, il y a des pannes, enfin, c'est affreux, mais parce que lui, pendant ce temps-là, d'une part, il écoute quand même, et il relit la scène, et il sait qu'il faut faire ce premier jet médiocre pour traverser la convention, traverser le plus mauvais, parce que c'est souvent à partir de là quand même. D'abord, il y a des choses à prendre, quelquefois dans le très mauvais, il y a eu un petit instant juste. Et on peut pas partir dans le génie, enfin, on peut pas dire voilà, la scène va être comme ça. Il faut d'abord passer par... Et finalement, ce qu'on donne, c'est drôle, ce qu'on donne du premier coup, le plus naturellement, c'est le pire conventionnel. C'est ça qui sort de nous. Il y a des auteurs comme ça, et Tchekhov en fait partie, où on a tous une idée de Tchekhov, de comment ça doit se jouer, et du coup, on la met en avant, cette idée-là. Et ce qu'on fait finalement n'est pas si spontané, c'est nos réminiscences tchekhoviennes, les spectacles qu'on a vus, on en a tous vu des centaines. Comme il y a très peu de corpus Tchekhov, c'est très court, on a tous au moins une dizaine de cerisés, enfin souvent... Et donc, on est beaucoup plus traversé par ces souvenirs-là, qui, en se déposant, sont devenus un peu des clichés. Et c'est ça qu'on joue, finalement.
Très bien, allez, on y va.
Mais est-il nécessaire, ce ridicule pathos?
Sincèrement, je te le dis pour la dernière fois. Pars, et va-t'en.
Et plaisante, et fais l'idiot. Je ne te lâcherai plus jamais. Quoi qu'il arrive, jamais. Je veux... Tu es à moi.
Oui, c'est ça, voilà.
Ta-ra-ta-ta-ta ! À moi.
T'es folle. Pas par quoi à pleurer, hein.
Et là encore, vous voyez, gardez-le comme ça, entre mi-fille, mi-raisin. Tu es folle, prépare-toi à pleurer, tu vas pleurer.
Je te veux.
Et tu me donnes du coup. Oui, c'est ça. Parce que après les mots... Voilà, je crois que c'est juste comme jeu, vous voyez. Ouais. Puis ça serait trop volontariste de retrouver la...
Une ludicité trop ludique.
Oui.
Oui.
Il faut.
Voilà. Je n'aurais pas pensé qu'avec la générale, ça pouvait se passer comme ça.
Oui. D'un seul coup, ça... Il est débordé.
Oui, ça.
Ce serait tellement facile.
Tellement étonné, je crois. Je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça avec la générale. Dans le plaisir, dans le. Dans une espèce de vrai désir du moment, etc. Dans la...
Mais c'est bien que ce soit là quand même.
Mais oui.
C'est bien que ce soit là quand même.
Oui, ah oui, ça, je crois, j'ai pas du tout.
Mais oui, mais oui.
C'est drôle parce que quelquefois des choses qu'on a pensées pendant des mois.
Ça ne contredit absolument pas ce qu'on a.
Oui, mais c'est effrayant, c'est effrayant.
Ça ne contredit absolument pas ce qu'on se disait.
Mais absolument, non.
Mais si on le reste dans l'espace. C'est comme des découvertes.
C'est découverte, pendant 4-5 mois j'ai pensé une chose et en 3 secondes cette chose.
Il faut en effet que. Voilà, on est dans le champ du désir, voilà.
Mais oui, bah attends, trois fois elle lui dit, je vous ai pas demandé, si vous aviez été libre, je serais tout de suite devenue votre épouse.
Bien, Jacques Lassalle, dans l'archéologie que nous allons tenter d'établir de cette mise en scène que vous faites de Platonov, le fléau de l'absence du père, voilà les premières strates qui sont posées. Elles ne passent pas seulement par le texte, on le voit, elles passent aussi par le lieu qui les accueille. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour avancer dans cette exploration de Tchekhov.
Très bien, très bien.
Je vous libère parce que je vois sur votre montre qu'il est midi et demi.
Oui, parce que c'est encore une des contraintes très particulières et très de la Comédie française. On a droit au plateau que de 13h à 16h30, dans le meilleur des cas à 17h. Mais on y a droit tous les jours. Et après, on revient dans la soute, on revient... voilà. Mais cet horaire est très, très singulier. Être à 13h tous les jours, bah, c'est parce que les minutes valent de l'or sur le plateau. Puisqu'il faut les gérer avec un grand nombre de techniciens, il faut tout mener de front, le son, la lumière, le plateau, enfin c'est très... Donc tous les jours être à 13h sur le plateau, c'est une contrainte énorme, surtout si on pense qu'après on est dans sa Lestland jusqu'à minuit souvent, enfin voilà, ça fait de très longues journées, et des journées qui commencent très tôt, qui compromettent un peu ce qui m'importe tant, c'est avant de m'engager corps et âme dans la journée de théâtre, de vivre un peu la journée du monde, c'est-à-dire la matinée. Voilà.
Mais est-ce qu'on est si éloigné du monde lorsqu'on est dans Tchekhov, Jacques? Ça sera peut-être le sujet de notre prochaine conversation.
Au contraire.
Est-ce qu'on est si loin de la vie?
On est pleinement au monde, mais on y est quand même au prix d'un détour. Voilà. Et pour que la vie soit là, pour que le mensonge du théâtre n'ait d'autres objectifs, d'autres enjeux, que de retrouver la vie, la vraie vie, il faut quand même garder un petit contact avec l'en dehors du théâtre, quand même. Je ne fais du théâtre que par son en dehors, voilà. Que par ce qui, spontanément, il aurait tendance à récuser, ce dont, spontanément, il aurait tendance à ne pas vouloir. Donc il faut bien que j'aille un peu... que je reste un peu... source comme ça.
Et figure-le, tu veux combien?
Ce que j'ai à vous dire ne vous surprendra sûrement pas.
Voilà, ce qui est beau, ça vient très bien. Et ce qui est beau, après la vitesse et c'est les deux départs très cool
dans l'ombre.
C'est ça. Et c'est même l'argent ne veut pas, presque, mais pas trop.
Plateau de la salle Richelieu, 20 octobre 2003.
C'est une technique de pickpocket
que de la brutalité.
C'est bien, c'est ça. Bien.
Alors, là, défigure-le.
Peut-être à la toute fin, je pense que la dernière image, ça pourrait être, si on le donne, la dernière image, ça pourrait être Vendirovitch entre les corps, comme ça, l'ultime vainqueur. Voilà. Mm-hmm.
Oui, c'est ça.
À la toute fin. Quand le rideau, quand les corps s'en va et qu'on retrouve le domaine, c'est Vendirovitch qui ordonne qu'on enlève le corps de slip. Hein, quelque chose comme ça. Pour que le récit de ce point de vue-là soit bien raconté.
Défigure-le. Tu veux combien?
Ce que j'ai à vous dire ne vous surprendra sûrement pas.
Bon, bah dites toujours, ma belle.
Je ne suis pas belle. Me trouver belle serait un manque évident de goût. Franchement, je serais même plutôt moche.
Oh là.
Non. C'est bien là votre avis.
Mais je vous dirai ça plus tard, alors.
Vous êtes soit un homme extraordinaire, soit une belle canaille. C'est l'un ou l'autre. Vous riez. C'est vrai, c'est très drôle.
Comment vous avancez dans la construction et l'élaboration de ces personnages, Clotilde de Bézère? Là, on est à peu près 20 jours de la première du spectacle. On est le 4 novembre. Vous avez commencé les répétitions, maintenant, ça fait un certain temps. Comment vous progressez, vous, par rapport à ce personnage de Krekova?
On est parti, en fait, d'un objet. Jacques Lassalle m'a dit, Krekova, elle a un sac à dos. Alors, je suis partie de cette idée et Jacques Lassalle nous disait aussi, allez chercher dans les nouvelles, allez regarder un peu les nouvelles et vous comprendrez Tchekhov. Donc je me suis un peu plongée dans toutes les nouvelles de Tchekhov parce que le texte est très elliptique, hein, comme d'habitude dans les pièces de théâtre. Donc surtout chez Tchekhov, il faut essayer de remplir cette vie-là. Et donc dans les nouvelles, on rencontre des personnages très similaires à ce qu'il a écrit, ce qui est étonnant d'ailleurs parce qu'il a 18 ans quand il écrit et les nouvelles ont été écrites après. Donc en fait, les nouvelles développent quelque chose qui était déjà là chez lui, en lui, quand il avait 18 ans. Et c'est vrai que donc j'ai lu beaucoup de ces nouvelles où on rencontre des personnages très proches de Grekova, de ces jeunes femmes comme ça qui sont perdues dans une nature très monotone mais très omniprésente, qui marchent dans la campagne, qui battent la campagne en marchant, en étant actives, en étant saines, en étant pleines de vie, et qui sont confrontées à une vie très monotone et très, comment dire, banale. C'est toujours avec des petits détails qu'on arrive à trouver. Et d'ailleurs, je me souviens de Stanislavski qui écrivait que quand Tchekhov venait voir les acteurs, il leur disait presque rien. Les acteurs essayaient toujours de savoir comment jouer, que faire, qu'est-ce que ça veut dire. Et lui, il leur disait, il disait à Stanislavski, par exemple, c'est un acteur qui joue avec des chaussures trouées, un pantalon à carreaux. Alors, il a mis du temps à comprendre, mais il a fini par comprendre ce que c'était le personnage avec les chaussures trouées, un pantalon à carreaux. Ça voulait dire énormément de choses. Finalement, ce petit concret donne tout le personnage. C'est ça qui est fou, quoi. Quand on arrive à faire l'abstraction de tout le reste, c'est très important, ça, finalement.
C'est plus important que de... Si Jacques Lassalle, vous avez donné un trait de caractère prédominant chez Grekova, au fond.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est un concret qui déclenche l'imagination. C'est une petite porte qui s'ouvre sur un imaginaire. Et ça, c'est plus fort que tout ce que vous pouvez raconter. C'est comme lire un livre et aller au cinéma. Aller au cinéma, on vous donne l'image. Lire un livre, vous partez dans votre imaginaire. Et c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on a un petit sac à dos, on va imaginer des tas de choses avec ce petit sac à dos, alors que si on vous décrit le personnage, c'est déjà fait. Donc on n'a pas besoin de chercher.
Vous êtes tous là à le prendre pour Hamlet ? Eh bien, soyez subjugués par lui ! Plaisantez d'autant que vous voudrez avec ce canaille !
C'est drôlement beau de surveiller la présence des autres hommes pour dire, comme vous l'avez fait pour Je suis pas belle, voilà que...
Continue.
C'est ça, de jouer. Ça rend délicieux le dialogue avec un seul quand on joue avec les autres, vous voyez ?
Oui, oui.
Ça fabrique une intimité, voilà. Ouais. C'est très bien, Jérôme, d'être passé dessous, comme le côté animal est... De jouer une scène d'amour au milieu des autres, dans le métro, au bistrot, enfin voilà. Pour Grekova, c'est le must. Et vous aussi, Denis, mais vous, c'est moins par rapport aux autres que par rapport à elle. Vous êtes intrigué par son...
Je suis intrigué, oui, oui.
C'est
là,
ça,
je
enfin intrigué. Intrigué relativement.
Parce oui, parce que j'ai en même temps oui. Son chien sur le feu.
Nous parlions avec Clotilde de Bézère de la façon dont Jacques Lassalle travaillait ce texte de Tchekhov dans la traduction de Serge Razvani et du travail de coupe que vous faites tous ensemble. Je lui parlais d'élagage et une autre image me vient en tête lorsque je le vois travailler sur les répétitions. C'est l'image également d'une glaise qui serait en train d'être sculptée, enfin dont on tirerait comme ça des formes. Un travail de sculpture, sans doute.
Oui, il part de...
Denis Podalydès.
De la personne elle-même, je crois, conjointement du texte, de la scène, du rôle. Et c'est assez rare de voir ça. Enfin, il fait vraiment avec ça, comme vous dites, une glaise. Ce qui fait que ça travaille dans la matière de la scène, en même temps que dans la matière de la personne. Mais pas simplement un comédien qui pourrait être un autre. Cette personne-là. Clotilde, moi, Laurent Stocker, l'identifie dans le travail, la personne, tout le temps. Il la ramène à elle et il l'éloigne d'elle. Il demande d'elle des choses souvent très, très intimes, sans dévoilement de secrets personnels, enfin bon, sans spéculer sur l'intime.
Et ce qui fait qu'on voit des scènes, effectivement, je vois des scènes se dresser comme ça. Ce travail d'élaboration est très mystérieux pour moi. Je ne sais pas. Quelquefois, j'essaye de voir, j'arrive pas à le faire sur moi, mais de voir quand tu fais travailler d'autres, d'où il part, de quoi il part. Il part quelquefois d'une réception, enfin, comment recevoir telle réplique. Il constate que tel acteur n'a pas reçu, n'a pas entendu vraiment la réplique, que s'il l'avait vraiment reçu, alors il y a un geste qui aurait dû venir, alors ça devrait colorer la réplique d'une autre façon. C'est souvent, alors quelquefois une petite réplique même à la fin, ou l'entrée d'un autre personnage qui fait que l'autre doit se détourner, et de proche en proche, comme ça, il repart du début, dans l'écoute, ça part souvent de ça, des méthodes aussi qui sont tout à fait usuelles, qu'est-ce qui s'est passé avant pour le personnage. Mais c'est curieux qu'à travers, en tirant ce tout petit fil, comme ça, il retend la scène, et il la fait lever, et il crée des moments qui fait que la scène prend vraiment un relief.
Voilà, c'est parfait. Peut-être, Denis, le du tout encore plus... Du tout. Peut-être, oui, voilà, un peu moins dans l'éprouvé de l'étreinte, plus...
Oui.
Finalement, et réflexion faite, pas du tout. Mais c'est beau que ce soit elle qui l'emmène comme ça.
Oui, oui. Ah, oui. À ma honte, il y a quand même une idiote que j'aime, et encore, c'est que je n'ai rien de mieux à faire.
J'ai fait en sorte, simultanément, voilà. de responsabiliser les acteurs, voilà. Totalement, vis-à-vis de leur propre travail, de les compromettre dans l'acte de mise en scène, d'en faire des partenaires à part entière, pas seulement ceux à qui on dit ce qu'on veut qu'ils fassent, mais ceux avec qui on s'entretient, on concerte. Chez moi, c'est d'autant plus évident, cette démarche, que au début, comme tous les jeunes metteurs en scène, je crois, je me fatiguais à écrire d'avance. J'avais un cahier, j'arrivais et je découvrais que cette espèce de programmation scrupuleuse, zélée, enfin, était la condition de... Enfin, menait très vite à un ennui, le mien, et ce qui est beaucoup plus grave, ce auquel je m'adressais. C'est-à-dire que j'ai mis un certain temps à oser venir sans a priori, sans préalable. Voilà. Dans une, j'espère, une connaissance, une intelligence sensible de l'œuvre et de son environnement. Donc maintenant, et c'est merveilleux, je dois dire, c'est que le premier à s'étonner, le premier à s'enchanter de ce qui arrive, c'est moi.
Et tout de suite contre Platonov. Tout de suite, voilà. On peut reprendre... Et c'est bien serré comme ça. Hein. Vous voyez, quand qui est entre la fin de la scène avec Platonov et l'arrivée de Trileschi, il faut garder la même énergie, la même voilà, et la même maladresse, et la même inadaptation à la situation. Voilà, c'est ça qui est beau.
Mais c'est mon beau-frère, le plus estimable de tous les hommes.
Et ami.
Et ami.
Peut-être un regard sur Platonov avant de...
J'hésitais.
Et c'est ça, oui. Peut-être un tout petit peu plus d'alcool, Laurent.
Mais c'est mon... Là, j'ai l'impression...
Mais c'est mon beau-frère.
Mais c'est mon beau-frère. Le plus estimable de tous les hommes.
Et ami.
Et ami.
Il n'y a pas un moment, Denis Podalydès, où on a envie de dire, bon, allez, maintenant, on le fait, on arrête, comme ça, de revenir sans cesse sur une phrase, sur une intonation, sur une voix, justement.
Il y a un instinct de sécurité qui fait qu'on aimerait quelquefois que le metteur en scène nous laisse patauger, et pour s'éprouver soi-même dans la continuité de la pièce, ou d'un acte, ou de la scène, mais en même temps, je crois que c'est une fausse sécurité. C'est la sécurité du métier, ça. Un jour, on s'est fait très vertement engueuler là-dessus, sur le métier, justement. Il dit, je vous vois, il nous dit, je vous vois dans votre cafétéria, je vous vois dans vos loges, je vous vois dans votre pièce d'hier, dans votre pièce de demain, mais je ne vous vois pas, vous, sur cette scène dans Platonov. Et c'est vrai, je crois qu'il a tout à fait raison. On cherche des tas de garde-fous, alors que quelquefois, la mise en question jusqu'au dernier moment est une de bonne méthode. Enfin, c'est comme ça, enfin, c'est à ce prix-là... Notamment dans ce rôle, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par les cercles de l'enfer. J'en suis dans un certain nombre d'entre eux, de ces cercles. Mais j'ai aucun culte de la souffrance, hein, vraiment. Mais il faut bêcher quand même, là, assez. Platonov, c'est un rôle qui demande... il faut y aller, quoi.
On a dû laisser l'artifice !
Attendez, Sergueï, attendez.
Salle Esconde, 5 novembre 2003.
Si vous aviez été acteur, vous auriez fait la joie du poulailler. Figurez-vous que moi, je suis.
Il y a un bateau avec moi sur la rivière, Sophia. Venez avec moi sur la rivière.
Jusqu'au prochain au revoir, madame.
Non. Denis Podalydès, l'autre jour, lorsque nous l'avons rencontré, lui aussi fait allusion à une colère que vous avez eue un jour en répétition en disant que vous n'étiez pas content, vous l'aviez fait savoir et qu'il avait réfléchi après. Il s'était dit que vous aviez certainement raison. Et je me demandais ce qui pouvait pousser un metteur en scène, parfois, lors d'une répétition ou d'un travail de répétition, justement, à la colère. Qu'est-ce qui vous a poussé à la colère ce jour-là, Jacques Lassalle ?
Toutes les femmes modernes sont comme ça aujourd'hui. Défie-toi de leur colère.
Je ne sais pas si c'est le mot colère qui convient.
Offre 2000, papa.
Je m'investis énormément. Et pendant les répétitions, qu'est-ce qui s'investit en moi ? C'est non seulement le metteur en scène qui est susceptible de conduire, de fédérer, de... Mais en plus, je m'investis de l'intérieur. Peut-être parce que je suis un acteur d'origine, même si j'ai, depuis bien longtemps, et ça me manque quelquefois, renoncé à faire l'acteur. Ça entraîne chez moi progressivement une sorte de formidable tension qui fait qu'il m'est très difficile aujourd'hui encore. J'ai fait des progrès, mais c'est de supporter une représentation, par exemple. C'est comme si on me greffait un cœur et un système pulmonaire artificiel. C'est-à-dire que, comme si j'étais obligé, pendant la durée de la présentation, un rythme cardiaque et un rythme pulmonaire qui ne soient pas les miens. Voilà, c'est... Donc, je suis en état d'extrême tension physique. Personne ne veut de moi pendant les représentations. Je me souviens, le Français, justement, à la fin de ma première mise en scène, le soir de la première, on m'avait imprudemment, j'avais imprudemment accepté, une place à l'orchestre. Et au bout de quelques minutes... La représentation me donnant plus du tout les sentiments que j'avais éprouvés la veille sans public, j'ai commencé à montrer des signes d'extrême fatigue, à telle enseigne, ou de contrariété, à telle enseigne que ma voisine m'a dit « Monsieur, si vous n'aimez pas ça, sortez. » Et je l'aurais embrassé. Je me suis dépêché de sortir. Parce que, voilà. Et personne ne veut de moi dans un théâtre.
Je pense que si je fais beaucoup de signes, c'est parce que quand même, tout cet acte se déroule pendant un bal. Et il faut que le bal, ne soit pas uniformément, mais il faut qu'il soit plus présent que ça. Que la fête soit là, qu'on sente que là, ça danse. Il faut vraiment que la fête vienne cerner toutes ces scènes, leur donner un contrepoint. Et quelquefois, et ne pas avoir peur de mettre des musiques très presque langoureuses ou tendres sur des scènes violentes, et, voilà, enfin, des dissonances. Mais toujours, si on oublie la fête, vous voyez, c'est la scène principale, elle est off. Et là, c'est une série de petits prélèvements. Voilà, mais la scène principale... Elle est, voilà.
Et là, on vient prendre l'air, on vient flirter, on vient... les alcooliques viennent pisser contre la glycine. Enfin, voilà. Vous voyez, pour beaucoup plus de raisons, beaucoup plus... Voilà, il faudra qu'on le précise bien. Il faut qu'à la fin aussi... Alors, non, je disais qu'à partir de la scène avec Glagoïev, c'est trop lent quand même. Vous le jouez trop lent, Igor, trop lent. C'est... Et puis, Muriel va tomber un peu dans cette lenteur. Alors, Anna Glagoïev. Ensuite, Anna Petrovna Glagoïev, Grigova et Grileski. J'ai rien compris à votre scène. C'est beaucoup plus... Il y a la fatigue, il y a l'ivresse de l'un, il y a la... Mais quand même, c'est beaucoup plus intense. C'était cette scène, Grekova, et puis ensuite Grekova, Anna, j'ai pas bien compris. Elle se joue très lentement et elle n'a pas de... Ensuite...
Ça me semble difficile d'expliquer avec des mots ce qu'on essaye de faire avec le corps. Enfin, je veux dire, Muriel Mayette. Bon, d'un seul coup, j'entends ma phrase, ça me paraît complètement sconce. Mais en fait, c'est exactement ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu joues, bien sûr, il faut essayer de comprendre avec le metteur en scène, avec l'équipe, qu'est-ce que tu joues, essayer de comprendre le texte le mieux possible. Mais tu joues aussi ce que tu ne comprends pas. Et donc, c'est très difficile d'en parler. Parce que ce serait une manière de sortir, de se mettre à un endroit intellectuel que... moi, je crois qu'on zappe quand on doit jouer, quand on doit l'interpréter. Bon, je l'exprime sans doute très mal, mais c'est un rapport plus animal, instinctif de jouer. Et alors, sortir de là, surtout 3 jours avant une première, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu encore de relation avec le public qui fige, qui arrête, malgré tout le travail à un certain endroit, même s'il continue... Dans une curiosité quand même, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se dessine avec le public. C'est ça qui est si violent pour le metteur en scène d'ailleurs. Quelque chose qui lui échappe à ce moment-là. Mais j'ai du mal. Ouais, je ne saurais pas trop quoi dire de Platonov là dans la seconde. Quoi.
Ni du personnage que vous interprétez, c'est-à-dire la générale Anna Petrovna.
Oui, je pourrais dire plein de choses, mais ça me semblerait très plat par rapport à la complexité dans laquelle je suis en train de m'immerger.
Vous avez connu des moments où vraiment ça, votre perception d'Anna Petrovna, du personnage et de la pièce, a pu changer radicalement du tout au tout par rapport à une idée que vous auriez pu en avoir au départ, avant même que les répétitions ne démarrent.
De toute façon, je dois dire que je n'avais pas... On a un goût, forcément, de qu'est-ce que ce sera le personnage à la première lecture. On peut dire à la première lecture, on est parfaitement génial quand on lit la pièce, en sachant qu'on aura interprété tel rôle. Mais avec Jacques Lassalle, il procède par strates de travail, et donc on s'engouffre dans une voie qui nous semble juste. Et puis à un moment donné, pour élargir la lecture, et aussi parce que beaucoup y veillent, beaucoup à ce qu'on ne s'endorme pas sur une seule connaissance, une seule fenêtre de lecture. Alors il nous dit, comme s'il nous disait, par moments c'est violent, comme s'il nous demandait le contraire. Là par exemple, en ce moment, il me demande... de récupérer ce que je ne m'étais pas rendu compte avoir perdu, à savoir une puissance et une lecture plus globale. En travaillant petit à petit, je me suis mis à jouer essentiellement des détails. Et j'en ai oublié le fil rouge qui serait quand même cette femme qui est chez elle et qui a une certaine autorité. Donc il m'a demandé radicalement ça, ce qui m'a perturbée. Le premier jour où il m'a demandé ça, j'avais l'impression que alors tout était faux. Alors, Jacques, il nous emmène souvent dans ces paniques d'avoir l'impression qu'il faudrait tout relire. Et j'ai toujours eu avec lui, à un moment donné, cette sensation assez proche de la fin, d'ailleurs, du travail. Et si on traverse ça en confiance avec lui, c'est génial. Et en fait, bon, je me rends compte aussi parce que je vieillis. Et donc, je suis sans doute plus d'accord de tout recommencer. Je me rends compte qu'on ne recommence pas du tout le travail à zéro, mais que dans un travail, quand même, être disponible, ça voudrait dire pouvoir tout redéfaire et reconstruire pour le lendemain, quoi. Et en ce moment, c'est ce que j'ai l'impression de faire.
Est-ce que dans le cas d'un spectacle comme Platonov, d'une pièce comme Platonov, vous pouvez vous reposer sur des acteurs et donc des personnages qui seraient des locomotives, en l'occurrence des acteurs avec qui vous auriez un dialogue sans doute plus soutenu ou plus privilégié, je pense justement à Podalydès, à Muriel Mayette, à Catherine Sauval, parce qu'on ne peut pas à la fois porter tout le monde et chacun, j'imagine qu'il faut aussi s'appuyer sur certaines personnalités. Est-ce que c'est le cas, Jacques Lassalle?
Il y a une double hiérarchie dans la comédie française. Il y a la hiérarchie apparente, celle des rôles, et il y a la hiérarchie souterraine, celle des pouvoirs internes, de la place qu'on occupe dans les rangs du sociétariat. Enfin. Alors, inutile de dire que cette seconde façon d'être locomotive, je n'ai de cesse non seulement de l'ignorer, mais s'il le faut, de la combattre. La première, c'est-à-dire avoir une relation privilégiée, complice, confiante, avec les protagonistes, enfin avec les acteurs protagonistes, c'est une chose magnifique. À la condition que ça ne conduise pas insidieusement à un abandon des autres. Voilà. C'est-à-dire que j'aime... Il y a évidemment, pour des tas de raisons, plus ou moins d'affinité avec tel ou tel acteur. On est plus ou moins accordé. Il y a des acteurs qui sont... avec lesquels on est dans une résonance mystérieuse de sensibilité, d'intelligence, mais peut-être plus encore, d'ailleurs, de presque corporel, presque. Et c'est un grand bonheur quand on en est là. Mais ce bonheur ne me conduit pas du tout. Enfin, ce que je demande aux, ce que vous appelez les locomotives, c'est beaucoup plus un soutien dans le souci que j'ai d'emmener tous les autres, c'est-à-dire l'acceptation, la compréhension que je puisse passer quelquefois sur un petit rôle à peine écrit une heure de travail, et ça peut conduire quelquefois, ça m'est arrivé, à ce que 8 jours avant la première, l'acteur ou l'actrice sur laquelle je me suis appuyé et qui me disent: Jacques, si maintenant vous pensiez un peu à moi, si maintenant vous commenciez à travailler un peu avec moi, parce que un acteur, même lorsqu'il est au fait de sa maturité, qu'il est là où il doit être, qu'il est, même celui-là doit connaître l'angoisse, ne fait pas l'économie de l'angoisse, et ça vient insidieusement à l'approche de l'échéance. C'est pour ça que, très curieusement, quand tout va très bien, les acteurs sont très inquiets. Ils disent: ça va tellement bien que ça finir, on va finir par le payer. Et en général, presque toujours, les plus grands bonheurs que j'ai eus, qui ont d'ailleurs été en général salués pour l'acteur par tel ou tel prix, par telle ou telle consécration officielle, se sont presque toujours payés dans les derniers jours d'une étrange panique. Pourquoi ? Parce que je crois qu'un grand parcours d'acteur, c'est un parcours de disparition, d'absence de soi-même. Et qu'à un moment donné, l'acteur prend peur. Il n'est plus personne. Tout lui échappe. C'est l'angoisse et celle de l'acteur qui dit... qui appelle au secours. Vous m'avez emmené hors de moi-même. Vous m'avez voilà, et je ne sais plus qui je suis. Et à ce moment-là, il vous demande de le porter, voilà. C'est très étrange, c'est très beau, c'est exténuant.
Eh bien, alors, dites, Platonov, dans la situation où je me suis avancé, votre silence commence à devenir insultant. Si ce n'est indécent.
Oublions tout de suite cette conversation. Elle n'a jamais eu lieu entre vous et moi.
Comme vous êtes étrange, mais pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Et que j'estime en moi l'estime que je vous porte. À tel point que plutôt que de perdre cette double estime, je préférerais pourrir sous terre. Je suis un homme sans entrave. Je ne me refuserais pas quelques liaisons passagères avec une petite femme. J'adore ça même. Mais vous, Anna... si belle, si intelligente, toute cette femme libre que j'admire justement pour sa liberté. Non, non, ce n'est pas digne de vous, de moi, de nous.
Mais moi, je parlais d'amour.
Et alors, croyez-vous que je ne vous aime pas?
Je vous aime.
Ça commence par des lectures, puis petit à petit on se lève, et puis petit à petit on cherche, et puis on s'arrête, on reparle. Et inconsciemment, on se met à le comprendre physiquement.
Pour vous, si vous le souhaitiez, je donnerais ma vie.
Et cette compréhension physique, elle doit être retraversée à chaque fois. Alors là, dans les filages prochains que nous allons faire cet après-midi, on en a deux encore.
Infiniment plus précieux que cette sorte d'amour dont il vous a
parlé. On va basculer un peu trop d'un côté, un peu trop de l'autre, c'est sûr. Et en basculant, on saura à l'intérieur, tiens, on a basculé. Mais il faut continuer dans un filage. Alors, ça va s'équilibrer comme ça. Il va être furieux, il va nous expliquer qu'on a basculé, on le saura. Il va nous redonner des pistes pour nous... En fait, essentiellement, pour nous remplir l'esprit de nouvelles quêtes. Pour justement qu'on ne s'arrête jamais en se disant, maintenant, c'est comme ça. Et quand on aura assez de choses dans la tête à traverser... On basculera moins d'un côté ou de l'autre parce qu'on s'inquiétera moins que d'être là suffit. Je l'explique comme je peux, mais je le comprends comme ça.
À 3 jours ou 4 jours de la première c'est le 22 novembre, c'est-à-dire dans 3 jours. Vous attendez quoi justement de cette première confrontation avec le public ? Est-ce que le public est un intrus le jour de la première ?
Non, c'est pas un intrus parce qu'on le fait pour ça, on le fait pour raconter cette histoire-là. C'est comme une photographie, simplement, le public. C'est-à-dire qu'on comprend mieux ce qu'on a fait quand le public est là, puisqu'on l'a fait pour lui. Après, si je suis tout à fait sincère pour répondre à votre première question, je pourrais dire, il y a 15 jours, j'avais un trac monstrueux de voir ce public. Aujourd'hui, c'est pas tellement que je n'ai pas peur, c'est que... Ma concentration est un peu ailleurs. Quand on est plein de ce qu'on cherche et que l'activité est essentiellement de chercher, je suis beaucoup moins inquiète qu'il y a 15 jours que le public trouve ça bien. Je suis sûre qu'il pourra trouver ça que intéressant si on ne quitte pas cette recherche, ce mouvement.
Qu'avez-vous besoin d'un ami en jupon ? À votre âge, avec autant d'argent, je ne chercherai qu'à satisfaire notre amour du prochain.
Je n'ai pas le don de me battre pour l'amour du prochain. Il faut être animé d'une volonté de faire qui m'a été refusée grâce au ciel. Moi, je suis venu sur terre pour l'amour, ça oui. Soyez gentil. Venez vivre chez moi.
Non. Et ne m'en parlez plus. Si nous possédions tout ce que nous espérons, nous manquerions de place. Et donc, mon refus devrait vous paraître de la plus haute intelligence. Et voilà, en prime, vous avez eu droit à un peu de philosophie.
La tradition de l'acteur français a longtemps été la tradition de la déclamation. Le grand acteur français était un admirable diseur de textes. Il n'avait pas de corps, il n'avait pas de partenaire, il ne s'inscrivait pas dans l'espace... Il n'avait pas le sens de la durée, en tout cas, dramaturgiquement, enfin, simplement. Il disait. Donc, c'était assez proche. Le conservatoire de la musique et de la déclamation était, comment dirais-je, c'était le même lieu. Et on n'était pas très loin d'une conception assez lyrique des choses, enfin... Quand Proust va voir la Berma, il ne va pas voir tout Phèdre. Il va voir les moments de la Berma ineffables. Je dis ça parce que, aux Français, même aujourd'hui, il arrive que les acteurs cherchent, comme à l'opéra, la bonne place sur la scène. Là où l'acoustique, la vision, est... Alors que une des conquêtes du théâtre contemporain, c'est évidemment non seulement la totalité de l'espace scénique, mais au moins autant, en tout cas en ce qui me concerne, le off, l'en dehors, l'ailleurs. Et puis, comment dire, il faut inscrire dans ce lieu, porteur d'une tradition et d'une codification extrêmement prégnante aujourd'hui encore, il faut inscrire l'espace du théâtre contemporain, envers et contre tout. Tout en sachant que si on ne le fait pas en tenant compte de ce lieu, de sa singulière topographie, de sa singulière histoire, parce que à Richelieu, on ne met pas en scène que les vivants, enfin. On met en scène les vivants en obtenant jour après jour des morts qu'ils veuillent bien vous laisser travailler, qu'ils vous acceptent. Il y a à Richelieu des spectacles qu'on n'arrive pas. Les anciens n'en veulent pas. C'est un lieu. Je crois que si on a un peu le sens de l'invisible, un peu le sens de l'étrange communion des morts et des vivants dans la vie, je ne connais pas d'endroit autant qu'un théâtre vide, et très particulièrement autant que Richelieu, qui soit un lieu bruissant d'une vie d'avant. Alors il faut gérer ça, et c'est magnifique à gérer. Et je sais quand c'est là.
Comme ça qu'elle vous surprend. Parce que autrement, c'est trop. Oui. On y va. On y va.
On est plus minable, c'est pas bien. Oui. Je suis d'accord.
Tout à l'heure, il y avait cette impatience, cette énergie, cette appétence. Et là, c'est... Voilà.
On ressort, Denis ?
Ouais. Mais c'est beau, parce que quand elle dit... quand elle dit encore une heure et tout ça... Elle ne peut pas ne pas attendre, elle n'en a plus envie du tout.
Mais en même temps,
quand elle reviendra au troisième acte, et en même temps, oui.
Et en même temps, je vais dire aussi, quand tu verras sortir de la maison du
Dieu. Mais peut-être, enfin, peut-être plus pour l'amour, peut-être pour... Je sais pas. En tout cas, il y a eu quelque chose, parce qu'au troisième acte, elle vient, elle dit...
C'est pas moi qui vais chez toi. J'ai l'impression qu'il y a une complication. C'est pas moi qui vais chez toi.
Parce qu'il est très joyeux, Sophia, parce qu'après, il a donné la lettre. Et c'est lui qui va quitter ses femmes pour Sophia, pas pour moi.
Je vais essayer de la dire plus loin.
Les trois premiers jours, j'étais très ennuyé. L'espace du premier âge, je ne m'en sortais pas. Parce que les entrées et les sorties latérales, qui sont innombrables, c'est une dramaturgie a priori assez simple, c'est une succession d'entrées et de sorties. Je ne m'en sortais pas et j'ai mis 3 jours à découvrir qu'il n'y avait pas de salut hors d'un recours à la salle comme lieu d'arrivée. Non pas du tout la salle comme poursuite de l'espace scénique, non, la salle comme bouche d'ombre d'où sortent, avec leur passé, avec leur histoire d'avant, d'où sortent des personnages. Et souvent, je demande aux acteurs qu'on les entende avant de les voir. C'est-à-dire que, voilà, c'est une espèce de vivier de fiction, la salle. Voilà, ça. Et en même temps, cette pénétration de face, de l'espace, est immédiatement pertinente, alors que latéralement, elle ne l'était pas du tout.
Mais pour un acte qui n'avait pas été vu depuis plus de 15 jours, c'est très bien, vraiment. Et il y a dans tous les parcours des choses très belles. Mais il y a aussi des dépressions, des chutes, Donc il faut retravailler les... Je vous dis, 40 minutes, c'est au moins 6-7 minutes de trop. C'est aussi bête que ça. Tu vois ?
Vous aimez, Denis Podalydès, être seul en scène avec Platonov lorsque plus personne n'est là et qu'il se jette dans ses soliloques un peu éméchés, voire même très éméchés?
Je les trouve terribles, moi. J'ai beaucoup de mal.
Vous parliez de cercle de l'enfer.
Oui, oui. Souvent, c'est un de ceux-là. Platonov seul, c'est très... D'autant plus que... Alors les monologues dans la version intégrale sont injouables parce qu'en fait tous ces monologues sont en même temps des grands morceaux de bravoure romantique. Jeune Tchekhov, 18 ans, sans doute pour essayer de gagner un acteur, imagine comme ça des grands monologues où il y aurait 1000 choses à jouer pour tenter un acteur. Et ces monologues, on les a quand même beaucoup réduits. Je crois que c'est normal, peut-être même faudra encore en enlever. Parce qu'ils ont ce côté monologue. Les personnages sont sortis, regard à gauche, à droite, et vlan, le public, et morceaux de bravoure.
Mais dans ce que vous avez dit, Denis Podalydès, vous avez employé une expression que je relève, parce que je trouve qu'elle définit assez bien le projet de Tchekhov sur cette pièce de théâtre. Vous avez dit, il écrit de grands monologues, très enflammés, pour tenter un acteur. Et je pense que vous le disiez dans le sens pour séduire l'acteur, et que l'acteur ait envie de s'emparer de ce rôle. Et moi, ce que je me disais en vous écoutant, c'est qu'on pouvait aussi entendre l'autre l'autre acception de ce propos, c'est-à-dire tenter le théâtre, essayer le théâtre, tenter le personnage.
Oui, tout à fait. Mais oui, parce que ce Platonov, c'est aussi un... Il y a eu un spectacle qui s'appelait Matériaux Platonov. Mmh. C'est aussi un fantastique matériau dans lequel on taille, un peu comme le Wojciech de Büchner, où il y a l'inachevé et aussi ce qu'il y a de plus intéressant dans la pièce. D'ailleurs, c'est ce que voulut conserver Jacques, c'est-à-dire la pièce dans son foisonnement et dans son inachèvement. Il faut même mettre de l'impur là-dedans, tenter le diable, parce que quelquefois on peut se tromper terriblement. Je peux, moi, dans le rôle, quelquefois m'illusionner, je m'en rends compte gravement, enfin, me tromper, enfin, vraiment, aller précisément à gauche, alors qu'en fait, il faut aller à droite, ou ne pas savoir du tout ce qu'il faut faire.
Est-ce que jouer Platonov de Tchekhov, Clotilde Bézère, d'une certaine manière, peut apprendre des choses sur la vie ?
Mais Tchekhov, de toute manière... Là, en plus, je découvre les nouvelles parce qu'il a écrit un nombre de nouvelles hallucinantes que je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert un univers incroyable d'humanité. C'est quelqu'un qui a un regard lucide sur l'humanité. Et qui a un regard qui ne juge jamais parce que c'est un regard de médecin. Et alors, moi, je vis personnellement avec un médecin et je trouve que c'est d'une justesse absolue. C'est-à-dire, comment un être peut être à ce point froid, c'est-à-dire peut regarder l'humanité et avoir une compassion totale envers l'être humain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'enflamme pas sur un petit cas particulier, mais a une compassion totale et générale pour l'être humain. Et ça, c'est formidable. Et je pense que le médecin a quelque part une grande part là-dedans. D'ailleurs, Tchekhov, très souvent, lui demandait son avis sur ses pièces et il disait « mais je suis médecin ». On ne peut pas me demander des explications sur la littérature, je suis médecin.
Et en même temps, est-ce que ça n'est pas compliqué de jouer des personnages qui sont très jeunes, parce que Platonov n'a que 27 ans dans la pièce, c'est un homme qui est déjà arrivé au bout de sa vie, et qui ont un tel savoir sur la vie.
Oui, alors ça, moi, ça me pose un problème, effectivement, parce que... Déjà, rien que pour mon personnage, Grekova, normalement à 20 ans, j'en ai 40. Donc, c'est pas la même chose.
C'est le cas de la majorité des acteurs qui sont engagés, et qui sont en règle générale engagés sur des pièces de Tchekhov.
Mais c'est ça, on est face à un phénomène étonnant, c'est-à-dire un gamin de 18 ans, parce que bon, moi j'ai une fille de 18 ans, je sais ce que c'est qu'un gamin de 18 ans, qui connaît le monde et l'humanité et l'être humain à ce point, c'est un mystère pour moi, total. Donc, je pense que il est juste que ça soit des personnes peut-être un peu plus mûres qui jouent les rôles, parce qu'on en a besoin. c'est pour faire ressortir le mystère et l'ambivalence des personnages, on a besoin d'avoir un petit peu de vie derrière soi, je pense.
Moi aussi, j'ai la tête qui chavire. Cerneurus cerebralis.
Cerebralis. Les insultes.
Ouais.
Pourquoi?
Ma chérie, ne pleure pas. Moi aussi, à votre place, je le quitterais. La plupart des femmes sont forcées d'endurer toutes sortes de saletés que les hommes leur imposent.
Oui, mais pas moi. Je ferai chasser d'ici. Dès demain, je me rendrai chez le directeur des postes. Des écoles.
Il perdra son poste d'instituteur.
Voyons, ma chérie, cessez de pleurer. Des hommes comme Trilecki sont incapables de porter... De prendre la défense de qui que ce soit. Ne lui en prenez pas rigueur. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire?
Il m'a embrassé pour tout le monde. Il m'a traité d'idiote. Il m'a jeté là, par terre. Non, il s'en tirera pas comme ça.
C'est un fou.
C'est un fou. Il va le voir. De quoi moi, je suis capable.
Confier les rôles de Platonov à des acteurs qui sont bien évidemment plus âgés que ne le sont les personnages dans la pièce, vous permet, Jacques Lassalle, de creuser dans cette humanité que visiblement vous cherchez et frénétiquement quasiment. C'est ce qui est apparu l'autre soir quand on a assisté à cette répétition. J'aimerais savoir quelle est la limite que vous vous fixez dans cette quête. On a assisté à une scène où Clotilde Bézère, qui joue Grekova, pleurait. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement magnifique. Vous, ça n'était pas encore là. Pour vous, ça n'était pas encore le son juste. À quel moment vous sentez que c'est atteint ?
Pourquoi tu restes ici ? On cherche là-bas.
C'est délicat. Dans le cas particulier de Grekova, c'était très beau, mais c'était une femme qui, une actrice femme, qui de très belle façon traduisait et sa souffrance et d'ailleurs sa rage d'avoir été traitée, bafouée par l'homme qu'elle croit aimer. Enfin, ce que je voudrais, c'est que cette, et ce sera le cas, c'est que, elle le sait très bien parce qu'on a retravaillé ensuite, c'est que cette actrice réinvente en elle, retrouve en elle la très jeune fille qu'elle a été, et que ses moyens d'actrice d'aujourd'hui n'outrepassent pas dans leur amplitude d'expression dans ceux de la jeune actrice. Parce que, après tout, au théâtre, quel est l'enjeu ? Il est mystérieux. C'est que la conquête, c'est la naïveté. La conquête, c'est le rien savoir. La conquête, c'est l'enfance de l'art, au pied de la lettre. Or, j'ai mis 30 ans à découvrir que cette conquête, elle ne pouvait être engagée et gagnée que par des comédiens au sommet même de leur art. C'est-à-dire que, pour moi, au théâtre, le sommet de l'art, c'est d'arriver à utiliser sa virtuosité, son expérience, pour les oublier. Enfin, il n'y a que ceux-là qui savent, qui peuvent oublier. Tous les autres gèrent, vaille que vaille, une image d'eux-mêmes, etc. Voilà. Je reviens à l'effet d'angoisse dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut amener l'acteur à un étonnement prodigieux vis-à-vis de ce qui vient de le traverser et qui ne sait pas. Il faut l'amener au somnambulisme. Et on le réveille doucement après. Et il ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé. Et en même temps, dans ce non-savoir très bien de ce qui lui est arrivé, il y a la capacité de le refaire aussi souvent qu'il le faudra. C'est-à-dire l'inconnu, mais l'inconnu mystérieusement maîtrisé, reconduit. Aussi longtemps que je vois un acteur habile, un acteur qui sait trop ce qui lui arrive, ou qui sait tout simplement ce qui lui arrive, je suis au théâtre, et je n'aime pas être au théâtre. J'aime être au théâtre pour oublier le théâtre. Voilà. La vraie scène, elle est celle de notre regard et de notre écoute, nous, dans la salle. Pour ça, il faut que le théâtre, dans l'absolue maîtrise de ses moyens, oublie ses moyens et consente à se faire oublier lui-même. Voilà. C'est, alors, c'est un peu difficile à formuler, et pourtant, c'est exactement là que je me place, et c'est exactement là où ça marche vraiment, quand ça marche.
Je puisse, elle savait tout.
Je reviens. Attends.
Le temps qu'il la couche, qu'elle s'endorme, une bonne heure encore.
Anna Petrovna. Petrovna. Anna Petrovna.
Qu'est-ce que c'est ?
Anna Petrovna.
Qui êtes-vous ?
Anna.
Isaac Abramovitch, mais qu'avez-vous ? Que faites-vous
Anna.
Ici ?
Anna.
Mais arrêtez, mais ça ne se fait pas. Un homme ne fait pas ça. Lâchez-moi, arrêtez de vous accrocher comme ça.
Que c'est bête. Si bête.
C'est toi aussi. Tu me surveilles.
Tu as tout vu?
Tout.
Mais tu es pas... Serais-tu amoureux de moi, dit aussi?
Moi qui vous ai vénéré comme une sainte, vous m'auriez dit aussi que jette-toi l'eau, je l'aurais fait.
Quand on travaille avec un metteur en scène, surtout un metteur en scène comme celui-là qui est très exigeant, qui a mis des années à aborder Tchekhov et qui a une vraie raison de le faire, on a tout intérêt d'être dans son spectacle parce que c'est dans sa mise en scène. Résister au profit d'une autre idée serait vraiment dommage. Parce que d'abord, on ne serait pas dans sa mise en scène, alors on serait perdant. Et pour nous, et pour lui, et aussi parce que... Mais parce que je crois que sa lecture de cette pièce, elle est passionnante. S'il a mis tant de temps, je crois, pour aborder ce texte, c'est parce que... Il est très proche de ça. C'est très intime pour lui de faire ça. Je le ressens comme ça. Il est au top de sa maturité de metteur en scène, Jacques Lassalle, en ce moment, je trouve. Parce que, justement, il arrive à ne pas se déconcentrer de l'endroit où il voudrait nous mener, tout en étant capable d'être disponible à toutes nos demandes. Et il les fait siennes, si vous voulez. Alors après, oui, de faire du théâtre, c'est de toute façon un équilibre très subtil à trouver entre plusieurs personnes. Tout ça pour construire une architecture assez solide pour qu'on puisse reproduire le spectacle chaque jour et assez souple pour qu'on puisse respirer et vivre dedans. Et c'est ce que nous demande Jacques Lassalle, il me semble.
Quand aussi arrive, rien n'est joué.
D'accord.
C'est assez mélangé.
Si c'est du bac, comme ça, lâchez-moi. Je l'ai dit à peu près dans l'ordre, les phrases, là, c'est bon, là.
Oui, tout à fait.
Et au début, c'est allez-vous-en, ça ne se fait pas, un homme ne fait pas ça. Voilà.
Et à partir du moment où la première aura eu lieu, le metteur en scène ne sera plus là pour vous accompagner, comme vous dites. Est-ce qu'on se sent orphelin, justement, du metteur en scène lorsque le spectacle a démarré dans son rapport au spectateur?
On se sent orphelin. En même temps, on se sent des fois aussi, par moments, très content qu'il ne soit pas là, parce qu'on peut le jouer sans... On peut être dans ce plaisir-là de s'abandonner à jouer, de se laisser tirer par la pièce, sans se soucier de ces feuilles de notes qu'on n'aura pas après. Donc d'être simplement abandonné. Après, Jacques Lassalle, s'il nous demande tellement comme ça de strates différents, contradictoires, et il s'inquiète énormément déjà depuis longtemps qu'on ne s'endorme pas, alors c'est inscrit en nous, ça. Et si on fait ce travail de vouloir pas aller au résultat, mais d'essayer de reparcourir toute la pièce, il nous a donné tous les moyens de ne pas s'endormir. Et puis on a Tchekhov qui est quand même infini, dans le sens où ça parle tellement de la vie que de réécouter, quand je dis réécouter, ça veut dire se rendre disponible entièrement à une phrase.
Et aujourd'hui, quelle serait la phrase justement de Tchekhov qui vous travaille le plus, Muriel Mayette?
Celle que j'aime le plus dire, je vais vous le dire, c'est parfaitement irraisonnable ou irraisonné, c'est quand Anna Petrovna dit « Aime-moi puisque tu m'aimes ».
À demain. Merci pour...
J'ai une passion pour l'univers tchékovien. Et d'ailleurs, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai découvert Tchekhov chez des anciens slaves, enfin. J'ai découvert Tchekhov, c'est chez Pitoef et chez Barsac. C'était encore l'époque d'une espèce de mythologie russe, où le samovar, le bouleau. C'était un Tchekhov de la nostalgie, un Tchekhov. J'ai aimé passionnément l'adolescent que j'ai été, le jeune homme que j'ai été, aimé passionnément ce Tchekhov. Et j'avais un tel sentiment d'affinité, de coïncidence avec ce théâtre, que d'une part, j'avais peur de manquer le rendez-vous. C'est, au fond, tout ce qui vous importe essentiellement, on le diffère. Enfin, en tout cas, je suis de ceux. J'aurais passé ma vie à faire, comment dirais-je, à différer ce qui m'importait essentiellement et à m'occuper utilement si possible avant le rendez-vous considéré comme essentiel. J'avais peur du rendez-vous. Ce rendez-vous m'importait tellement que le manquer m'aurait détruit.
Dites quelque chose, Platonov, pourquoi vous taisez-vous ?
Plateau de la salle Richelieu, 20 octobre 2003. Excuse-moi.
Quand j'étais petite, on me permettait de passer les nuits d'été à la Belle Étoile. Vous avez mis une cravate neuve ce soir.
Oui, en effet, elle est neuve.
Je me sens dans un état bizarre. Tout me semble excitant. Dites quelque chose, Platonov. Pourquoi vous taisez-vous ?
Que voulez-vous que je vous dise ?
Je ne sais pas. Dites-moi quelque chose de gentil, de neuf.
C'est peut-être là seulement que vous veniez. Vous voyez ?
Oui, c'est pour ça que je te parlais. Parce que je te parlais de loin.
Comme... Vous voulez bien qu'on la fasse une fois, comme ça, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ? Comme vous voulez.
On a le plateau jusqu'à 5 heures ?
Oui. Il est 4 heures.
Mais oui.
Formidable, pardon.
Ça va, tout va bien.
Excusez-moi. Ah ben alors, on va reprendre votre...
Mais il ne corrait pas.
Jacques.
Ah bon.
Ça fait rien, travaillons pour le moment.
Il ne faut pas donner des permissions, Annette. En ce moment... Oui.
Ou la tentation du théâtre, avec Jacques Lassalle, metteur en scène, et les acteurs Clotilde Debézère, Muriel Mayette et Denis Podalydès. Étienne Leroy, Laurent Lucas, Laurent Macchetti. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Surpris par la nuit, Joël Gaillot, Anne Fleury. Entrée au répertoire, Plateau 9, le fléau de l'absence de père, a été créé le 22 novembre 2003, salle Richelieu, par la troupe de la Comédie-Française. Le spectacle se joue jusqu'à fin mars 2004.